Heureuse coïncidence 2023, amour et métamorphose, épisode 1. Un premier débat à trois voix féminines, talenteuses, complémentaires, et dont le point commun reste un amour immodéré pour la mise en scène, de l'espace public bien sûr. Priorisation, valorisation, expérimentation, laissons donc Sarah Castagnier, conceptrice lumière, Corinne Vezzoni, architecte, et Jacqueline Osti, paysagiste, nous partager les expériences qui, pour chacune d'entre elles, ont nourri leur travail.
On va quand même vous représenter. Donc, Sarah Castagnier, vous venez de reprendre l'agence Concepto, qui est l'agence fondée par Roger Narboni il y a 35 ans et pas il y a 30 ans. Vous avez dirigé auparavant votre propre agence. Vous avez réalisé de très nombreuses mises en lumière. Vous allez peut-être en parler tout à l'heure. Hein, le volcan et la bibliothèque Niemeyer au Havre. Le parvis du Sentier à Lourdes, ici à côté les 9 écluses de Fonsran à Béziers, les espaces publics autour du tram de Paris-Orly. Vous avez l'habitude de travailler avec Jacqueline Osti et vous êtes aujourd'hui présidente de l'ACE, l'Association des concepteurs lumière. Vous étiez jusqu'en 2018, mais vous êtes quand même à l'origine du manifeste des concepteurs lumière, qui est un manifeste absolument formidable, très intéressant à lire. Jacqueline Osti. Tout le monde vous connaît aussi. Vous êtes Grand Prix de l'urbanisme 2020. Vous avez réalisé de très nombreux projets. Alors évidemment, vous avez d'abord été connu par le parc Saint-Pierre à Amiens. Vous avez fait le parc Martin Luther King à Clichy-Batignolles, le troisième plan de l'île de Nantes avec l'air Shorter, l'écoquartier Flaubert à Rouen, les parcs zoologiques de Lyon et de Paris. Vous avez fait des choses à Bordeaux. Enfin, je ne peux pas dire tout ce que vous avez fait. Et vous, Corinne Vezzoni? Alors vous êtes, je ne sais pas si vous êtes vexée si je dis que vous êtes marseillaise, architecte du Sud, que vous le revendiquez fortement quand même, que même si vous ne travaillez pas que dans le Sud, mais dans le Sud vous avez fait les archives départementales des Bouches-du-Rhône, le tramway de Marseille, le pôle judiciaire de Martigues, le The Camp à Aix-en-Provence, un gros projet à Toulon, deux gares dans le cadre du Grand Paris Express. Le projet dont on va parler tout à l'heure, qui est l'inscription du fac-similier de la grotte Cosquer à Marseille, devant le muséum de Ricciotti. Donc, toutes les deux, vous êtes nées, vous avez vécu au Maroc. Donc, je suis partie de ce que vous avez écrit à propos du Maroc pour vous demander comment votre expérience, est-ce que vous considérez que votre carrière professionnelle, c'est la traduction de votre expérience d'enfant ou d'adolescente, traduction en conscience professionnelle. Donc vous, Jacqueline, vous écrivez dans le livre qui a été publié quand vous avez eu le Grand Prix de l'urbanisme, à propos de la danse, vous dites « c'était privilégier le corps comme instrument de maîtrise de l'espace, mais pas seulement, car l'apprentissage de la danse était aussi celui d'un lieu de mise en scène et de coulisses, choses fascinantes qui ont orienté l'apprentissage concomitant de la ville, me faisant y déceler aussi des scènes et des coulisses, et m'amenant plus tard dans ma vie professionnelle à créer des successions d'ambiances, à envisager des scénographies urbaines qui puissent rivaliser avec des scénographies théâtrales. Les villes marocaines m'apparaissent aujourd'hui comme des preuves de la légitimité de cette façon de penser la fabrique de la ville que je ne faisais alors que pressentir dans une conscience inachevée. » On retrouve ce qu'écrit Malraux sur le fait des interactions choisies. Et vous, Corinne, vous dites « J'ai grandi au Maroc, à Casablanca, où l'architecture moderne a produit des bâtiments magnifiques. Inconsciemment, cette présence m'a nourrie. Je me souviens de l'école Jules Ferry, des villas aux murs blancs et des architectures de béton brut. Mon envie de travailler avec ce matériau commence sans doute là-bas. Puis j'ai été élevée dans le Sud et je vis aujourd'hui à Marseille. Ceux qui, comme moi, vivent avec le soleil comprennent ce que cela veut dire. Il ne s'agit pas seulement de l'accueillir, il faut aussi s'en protéger, tamiser sa lumière, savoir s'en préserver. D'où cette notion d'abri, d'ombre, d'intimité, qui en architecture se traduit par une forme de pudeur, le refus de tout révéler d'un bloc, sèchement, sans poésie. Ne pas tout énoncer tout de suite, laisse la place à un peu de mystère, donne au projet cette part d'âme dont il a tant besoin. » Donc, vous aussi, je pense qu'il y a un amour de la mise en scène. Maintenant, je ne vais plus parler, je suis désolée d'avoir été si longue. Et donc, je vais vous poser, pour commencer, à toutes les deux, la même question. Est-ce que vous considérez que votre carrière professionnelle, c'est finalement la traduction de cette expérience du Sud, du Maroc, en conscience ? Qu'est-ce que vous avez choisi de cet héritage ? Qu'est-ce qui vous a permis de vous dépasser ? Est-ce qu'il y a un peu d'amour dans tout ça, quand même ?
Je commence par la question du paysage. Donc, comme vous dites, en reprenant la phrase de Malraux, l'héritage ne se transmet pas, il se conquiert. Je dirais, dans le projet d'urbanisme et de paysage, le sol, Le sol nous donne en héritage les lois de sa propre transformation. Donc, c'est à nous de le lire, de le traduire, de l'interpréter dans l'objectif de le transformer, de l'aménager par un travail de création qui est effectivement un jeu d'interaction entre passé et présent. Et évidemment, chacun avec sa sensibilité, et souvent une sensibilité, enfin, je peux parler pour moi, mais je pense qu'on a une sensibilité qui a été façonnée par les paysages de notre enfance, là où on a vécu. En tout cas, le Maroc a été pour moi quelque chose d'assez fort. Avec effectivement la spécificité du paysage, qui est de travailler avec le vivant et qui a lui-même sa propre dynamique de transformation et d'évolution. Alors, de ce que j'ai retenu, alors après, l'exercice est difficile de ne pas enfoncer des portes ouvertes et puis de faire l'auto-analyse. Donc, on va essayer, on a essayé quand même. Donc, je pense que moi, ce que je retiens du Maroc, parce que j'ai quand même passé au-delà du 20 ans, voire 30, parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps, c'est la notion de, je crois que ce qui vient en premier, c'est la notion de l'espace et la notion de l'ampleur. Parce qu'on est dans un paysage fait effectivement au bord de la mer, donc la ligne, l'horizon de l'océan, le ciel, la terre mis à nu, le ciel étoilé, qui est quand même quelque chose que j'ai toujours eu comme ça à portée de main. Et quand on est à Paris, enfermé par l'urbain, on a un peu, on a plus un peu cette notion d'ampleur, si ce n'est par les tracés urbains. Autre chose qui m'a marquée en fait, donc c'est la grandeur. Ici un peu la page souvenir qui est effectivement dans le livre où on recoupe tous ces éléments qui sont à la fois des paysages. Et on parlera ensuite de métissage, de l'ombre, de la lumière, d'une architecture particulière, moderne, de la ville de Casablanca, qui croise la ville marocaine, des grands paysages ouverts, des paysages foisonnants aussi. Et c'est cette notion de contraste qui m'a marquée aussi dans ce pays. Donc cette question de contraste entre une terre mise à nu, c'est-à-dire qu'elle est vraiment, on est en contact avec la roche, et aussi ce côté sec, aride, rugueux, et le côté cultivé, humide des cultures. C'est aussi, on parlait du contraste entre ombre et lumière, dans une architecture aussi cubique qui croise dans ces pays de montagne de l'Atlas, où on croise l'architecture de lignes, de terre, de formes cubiques avec ces formes géologiques, celle de la ligne droite et de la ligne courbe, comme ça, qu'on rencontre de manière un peu vernaculaire. Et puis, la ville arabe, la Médina, et celle à côté qui côtoie la ville européenne, la ville occidentale, dessinée la ville coloniale, avec ses grands axes d'un côté, et de l'autre côté, un système labyrinthique de rues et de ruelles. Enfin, je pense que cette idée d'ordre et désordre qui m'ont quand même marqué, je pense après dans ce que j'essaye de traduire peut-être à travers dans mes projets. Donc c'est un métissage de culture entre ce désordre ordonnancé et qui a créé certainement pour moi une forme de décalage, de me mettre un peu dans une sorte de distanciation, je dirais même hors-sol, ce qui est pour un paysagique pas forcément des choses, puisqu'on essaye de s'ancrer. Et du coup, de ce déracinement, je pense que chez moi, ça crée le besoin d'ancrer tout aménagement dans son territoire, au-delà même de la démarche, ce qui fait partie de la démarche intrinsèque de l'aménagement de paysage, qui est d'ancrer un paysage, un aménagement dans ce territoire. Et je pense aussi que je cherche toujours à créer une sorte un sentiment d'appartenance à un lieu, c'est-à-dire faire un projet à Paris ou à Amiens ou à Marseille. C'est évidemment, il y a peut-être des règles professionnelles et d'expérience, mais en tout cas, chaque fois, la découverte et le projet, le site, et là on parle de contexte, et je ne pense pas que simplement d'une manière, je dirais, je fais mon boulot et j'analyse le contexte, mais qui a une part très très importante après dans le projet pour créer justement ce sentiment d'appartenance. Alors ça se passe par le fait de relier le petit et le grand, d'aller chercher les horizons, d'aller chercher les repères, de le ramener à ce qui fera la spécificité d'un lieu ou d'un paysage, de s'appuyer et de à la fois s'appuyer sur toutes les données qui fait le paysage, la géologie, la géographie, mais l'histoire aussi. Donc c'est tout le côté sociétal, environnemental et culturel qui, à mon avis, est une dimension très importante dans le projet de paysage, surtout aujourd'hui où on parle de paysage souvent que par le biais de l'environnement. Donc ici, quelques images qui montrent un peu le passage de l'un à l'autre de ce que j'ai pu découvrir dans mes marches dans l'Atlas ou bien et ensuite transposé ici dans des projets comme à Amiens dans le parc Saint-Pierre. Alors il y a aussi quelque chose. Il y a aussi quelque chose qui dans l'héritage, je pense qu'aussi ce qui fait partie de l'héritage, c'est le manque. Le manque de ce qu'on n'a pas eu et ce qu'on a imaginé qu'on va aller chercher ailleurs. Par exemple, si je prends l'exemple au Maroc, les saisons n'existent pas vraiment. Il y a peu de printemps, il y a peu d'automne. Et du coup, chez moi, ça crée une forme de fascination par l'explosion, cette manifestation événementielle qui rythme une année. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui prend quelque chose d'important chez moi, alors que je ne l'avais pas. Il y a aussi d'autres choses, comme d'imaginer les forêts marocaines n'ont rien à voir avec les forêts que j'ai découvertes en Europe, extrêmement foisonnantes, et c'était celles ce que je pouvais imaginer en lisant des contes de fées. Donc c'était transposé aussi par le manque, au fond, aller chercher un imaginaire que l'on n'a pas forcément et que l'on cherche aussi parfois à réintégrer dans les aménagements qui sont produits.
Les images qu'a montrées à l'instant Jacqueline sur le Maroc, c'est effectivement tout ce qui m'a fait finalement décider de venir à Marseille, de rester à Marseille, de ne pas m'installer ailleurs, mais de rester dans le sud, au bord de la Méditerranée, parce qu'il me semble que la violence des éléments en Méditerranée dicte finalement la condition des hommes, la façon de vivre des hommes. Alors le Maroc, évidemment, l'extrême sud, ça a développé encore plus à l'extrême, mais rien n'est en demi-teinte dans ces paysages. C'est toujours le soleil est très violent, le vent est très violent. Lorsqu'il pleut, ce sont des pluies diluviennes qui ravinent les sols. La pente est souvent présente. Et finalement, cette violence-là, eh bien, l'homme a dû sans cesse s'y adapter, sans cesse comment faire la façonner, faire avec, plutôt que de s'y imposer. Et ça, je pense que le Maroc, et même les architectes contemporains ou modernes de la modernité qui sont venus construire au Maroc, ont complètement intégré ça. Comment ne pas s'imposer, mais faire avec. Et ça a été vraiment ce qui, je pense, a dicté la façon dont après j'ai travaillé sur cette minéralité, sur comment la creuser, comment composer avec le soleil. Alors, il y a une chose qui a été très importante. Alors, en écoutant Jacqueline, j'ai demandé à ce qu'on mette ce projet-là. Je n'avais pas pensé vous le présenter. Mais une chose qui est très importante, c'est qu'on vit dans la nature et on vit à l'extérieur. C'est-à-dire que pour optimiser les sols, très souvent dans les villages marocains, pour optimiser le sol, on utilise les toits pour ne pas consommer les terres agricoles, les terres arables. Et on utilise les toits pour des activités, des activités ou de rencontres, ou de vie, ou de société. Et tout se passe à l'extérieur. Il n'y a pas de couloir, de hall, de circulation intérieure. Tout se passe à l'extérieur. Et ça m'a énormément marqué. Et dans tous mes projets, quasiment tous, je propose qu'il n'y ait plus de circulation, plus de hall, plus de distribution intérieure. Tant que je peux le faire, je le fais. C'est un gain de surface, un gain, une économie d'énergie, parce que ça n'est pas ni à chauffer, ni à climatiser, ni à éclairer artificiellement. Souvent, c'est resté éclairé toute la journée. Et tout ceci est projeté à l'extérieur, donc cumulé avec l'espace extérieur, avec les jardins, avec l'espace public. Et ce cumul, ça optimise l'espace extérieur, on cumule deux fonctions, mais aussi ça économise de l'espace, de la surface, parce que les bâtiments finalement vivent une cure d'amaigrissement, ils se rétractent, puisqu'on a tous ces éléments en moins de circulation. Et elle est restituée à l'extérieur, Et de fait, on optimise aussi les sols et on optimise les terrains. Alors, je vous montre ce projet-là. Et donc, c'est une réalisation qui est à Marseille, qui raconte tous ces sujets, qui raconte la pente, comment, grâce à la pente en Méditerranée, on peut optimiser les sols. Et grâce à cette pente, on évite le ravinement de l'eau en créant ce que l'homme a toujours fait, des restanques, ce qu'au Maroc, ils ont toujours fait. C'est un terrain, je vous passe sur le projet lui-même, mais c'est pour vous expliquer qu'en s'installant dans la pente, eh bien, chaque toit peut faire office de hall d'entrée ou de parvis d'entrée. Le parvis, on ne minéralise pas un seul élément, mais c'est le toit d'un autre qui devient parvis. À droite de l'image, on a un gymnase qui devient la place du village, qui devient la place de ce quartier où se trouvent les marchés, qu'on a équipé alors que c'est un gymnase. Son toit est offert à un espace public. On a réussi à régler ça avec la ville et la région et devient un élément d'espace public pour le quartier. De la même manière, les toits, on le voit ici, les toits des différents espaces, des différentes salles d'enseignement deviennent ou jardins ou cours de récréation, ce qui nous a permis de réduire le terrain de moitié. On a réduit l'espace construit et on a libéré la moitié du terrain pour le projet lui-même. C'est ce que je vous ai montré en tête, ce que vous voyez ici, tout le bas du terrain, finalement la moitié est restituée à la ville et devient naturelle pour un avenir possible ultérieur. Et ça, c'est un élément, rétrospectivement, je me suis dit, vous voyez, les circulations sont à l'extérieur, il n'y a pas de hall, et je me suis dit que le Maroc m'avait appris ça, que finalement, on peut trouver des jardins intérieurs, on peut retrouver l'intimité, les patios, on peut retrouver... Ce qui m'a porté aussi, c'est comment, vous l'avez dit Michel en préambule, comment cette part de mystère, un bâtiment doit la préserver. Il me semble qu'en Méditerranée, tout ne se donne pas à voir tout de suite. Ça aussi, le Maroc le montre. Il y a cette intimité qui est gardée à l'intérieur et toute la richesse se trouve à l'intérieur. Il y a une certaine austérité à l'extérieur. On est assez rude à l'extérieur, on s'abrite. Et à l'inverse, à l'intérieur, c'est une grande poésie qui peut se développer. Voilà.
Vous faites une mise en lumière pour un projet du Sud. Comment vous appréhendez ça? Il y a une différence pour vous et pour moi qui vais regarder la mise en lumière. Qu'est-ce que ça change? Je dois me rendre compte qu'on est dans le Sud, la nuit. Il y a une nuit du Sud et une nuit du Nord.
Le public va vivre dans les espaces et les ambiances qu'on propose. Et c'est les ambiances qu'on crée. Finalement doivent répondre à la culture du lieu, c'est évident. Alors pour les projets d'éclairage d'architecture, c'est l'architecte en fait qui construit son volume, sa boîte et qui va créer les ouvertures pour faire venir, rentrer, pénétrer la lumière. Et effectivement, je ne vais pas vous apprendre que les architectes du Nord et du Sud ne construisent pas les mêmes bâtiments avec les mêmes ouvertures. L'architecture est façonnée par la lumière naturelle du lieu dans lequel elle vit. Et mon expérience la plus vibrante, je dirais, c'est celle que j'ai eue dans le volcan, le bâtiment d'Oscar Niemeyer au Havre, qui a été réhabilité il y a une dizaine d'années sous la direction de l'agence Désoulières Jeannot. C'est une architecture du Sud qui a été créée par un architecte du Sud, et cette architecture est faite pour épouser le soleil dans un pays, et elle a été transposée dans un endroit où le soleil est présent tous les jours, certes, au Havre, mais pas que. Effectivement, la lumière change, est très changeante, très mobile, heureusement d'ailleurs, mais il y a aussi un ciel très diffus. Et en fait, cette architecture créée pour la lumière crue, la lumière du soleil directe, le volcan n'est pas le même bâtiment lorsque le ciel est diffus et la lumière à l'intérieur du volcan ne rentrait pas de la même manière. Ce sont des programmes de théâtre, de bâtiments, Et l'un a été réhabilité en bibliothèque. Et donc, on a eu cette idée d'ouvrir le bâtiment, de créer une verrière, avec l'accord d'Oscar Niemeyer, bien sûr, qui était encore vivant à l'époque. Et donc, de faire rentrer cette lumière d'une façon plus généreuse à l'intérieur du bâtiment. On a créé des éléments avec l'acousticien, des nuages qui permettaient de filtrer aussi cette lumière qui rentre. On a calculé cette entrée de lumière pour calculer les facteurs d'absorption nécessaires, etc. Et ces nuages créent à la fois de l'ombre, créent de la lumière lorsqu'il fait nuit et absorbent le son. C'était une expérience magnifique de travailler sur ce bâtiment-là créé par Oscar Niemeyer. Pour les projets d'aménagement urbain, dans le paysage nocturne, c'est tout aussi magique, mais c'est complètement différent. Pour ma part, c'est le crépuscule qui m'inspire. La façon dont le soleil disparaît derrière l'horizon et la façon dont il tire sa révérence, finalement, la vitesse à laquelle il disparaît et tout ce temps entre le moment où il passe sous l'horizon et sous les 10% de l'horizon, qu'on appelle le crépuscule, en fait, avec effectivement ce crépuscule, selon les latitudes, selon les saisons, n'est pas le même. Et ça, c'est très inspirant. Et cette lumière qu'on découvre sur un site et la façon dont la lumière aussi réagit avec les matérialités du site nous inspire pour le projet qu'on va proposer ailleurs. Donc, effectivement, on puise notre inspiration sur cette lumière. Et l'objet d'inspiration aussi énorme, c'est celui de la nuit et des sensations nocturnes qu'on a sur un site. Et je crois que découvrir l'apport, ce qu'on apporte en discutant avec Jacqueline, c'est aussi notre regard sur la nuit sur un site et sur la dimension imaginaire que peut apporter la nuit sur un site où on ne voit pas du tout les mêmes choses que de jour. Voilà l'accès aussi au ciel étoilé. Ça, c'est une chose. C'est le seul moment la nuit, en fait, où on a accès à autre chose, à un ailleurs. Et ce ciel étoilé, il est vital pour l'humain. Et c'est ce qu'on essaye de travailler aussi et de le révéler, même si on est éclairagiste et qu'on fait de la lumière artificielle.
Oui, vous dites la nuit est belle, ne l'abîmons pas.
Donc, tout à fait. Mais j'étais amenée à parler de l'obscurité et du travail qu'on fait sur l'obscurité. On déploie à l'agence un travail sur l'obscurothérapie, c'est-à-dire une façon de rendre l'obscurité douce et ressourçante, parce que finalement, l'homme a toujours cherché à combattre l'obscurité. Et là, on est dans une posture un peu moins patriarcale, où justement, on essaie de révéler aussi que l'obscurité peut être ressourçante et douce, et on la compose dans nos projets. On fait des images un peu utopiques pour justement renverser la peur qu'on peut avoir de l'obscurité. Et on cherche à créer des bulles d'obscurité dans l'espace public, à des endroits donnés, des éléments tout petits, micro-éléments, pas sur toute la ville entière, mais où on amène le public en fait à se ressourcer dans l'obscurité et à avoir, avec très peu de lumière, et à ressentir des émotions particulières en étant dans l'obscurité. Oui, dans le manifeste des concepteurs lumière pour des projets d'éclairage raisonné qui a été rédigé en 2007, il y a un engagement qui est de réhabiliter le plaisir de la pénombre et de l'obscurité. C'est un engagement qui prend toute... Heureusement que... C'est un engagement qui prend toute sa dimension maintenant, c'est-à-dire en 2016, quand on a écrit la première version du manifeste, parce qu'à sous l'initiative de Vincent Thiesson, le président actuel de la CE, on est en train de réécrire le manifeste, de lui redonner un peu de modernité, parce qu'entre 2016 et maintenant, il s'est quand même passé beaucoup de choses qui ont changé. N'empêche que cet engagement-là, de la réhabilitation du plaisir de l'obscurité, est un engagement qui prend tout son sens, encore plus maintenant, parce qu'on a besoin de cette obscurité aussi pour préserver la biodiversité.
C'est très bien, vous avez répondu à ma deuxième question, parce que j'avais, dans votre manifeste, il y avait deux très jolies phrases. La lumière est indispensable, elle est précieuse, elle ne supporte pas l'excès ni la médiocrité. Sa maîtrise reste une excellence, une passion, un métier. La nuit est belle, ne l'abîmons pas. Et plus loin, réhabiliter le plaisir de la pénombre et de l'obscurité en ville, jouer avec les nuances, maîtriser les contrastes. Vous venez d'en parler, donc c'est très bien. Ma question piège, c'est que finalement, que ce soit les paysagistes ou les architectes, on lit maintenant partout que le site fait le projet. Donc, très bien, tout le monde suit ce précepte que le site fait le projet. Est-ce que finalement, c'est pas un peu... Je ne veux pas dire que c'est facile, mais le fait de le dire est facile. Alors, Basmet, il parle toujours de paysage augmenté. Je pense qu'il dit là qu'il apporte quelque chose en plus. Si on reste sur l'idée de la métamorphose, bien évidemment, ce que vous faites va traduire votre connaissance du site. Mais en même temps, comment imaginez-vous que ce que vous amenez en plus apporte, bon, d'abord une métamorphose immédiate, mais pourrait apporter, c'est là qu'est la question piège, une métamorphose future. C'est-à-dire que quand vous faites, c'est plus difficile pour un paysagiste évidemment, mais quand vous faites un projet, est-ce que d'abord vous demandez comment, qu'est-ce qui va se passer dans 50 ans, non pas que les arbres auront poussé, mais quelle valeur symbolique il aura, comment les gens vont le pratiquer. Est-ce que c'est une question que vous vous posez? Est-ce que c'est une question qui est présente quand vous dessinez? Ou bien pas du tout? Ou bien ça n'existe pas pour vous, cette question de l'après?
Je ne peux pas dire que ça n'existe pas, parce qu'en en fait, on sème pour que ça pousse. Et que ça transforme, et que ça existe. Et puis ça meurt, puisqu'on est dans le cadre du monde du vivant. Je dirais, de toute façon, dans les projets, on me posait la question hier, quand j'imagine mon projet, je l'imagine avec des grands arbres. Et après, je rétropédale sur la manière de mettre en place et fabriquer, comment je vais fabriquer ce paysage. Donc, je pense que ça a beaucoup d'importance. Je ne sais pas comment répondre à cette question, parce que je suis aussi partie sur la question de la scénographie et comment on met en place un paysage. Moi, je suis très... on a parlé de la danse tout à l'heure, qui a été pour moi une exploration du plateau par le geste. C'est aussi un apprentissage de la mise en scène dans la fabrication d'un espace qui va au-delà des limites qu'on me donnait par le projet, et d'aller chercher à la fois dans le même endroit de créer de la proximité et donner un sentiment d'immensité dans le projet par la composition qui passe par plusieurs, effectivement, règles. Il y a déjà, on parlait de l'ancrage du projet, c'est-à-dire le rapport aux échelles, l'emboîtement des échelles pour fabriquer un projet, la dimension du tracé, la composition qui va chercher les éléments lointains pour tisser les liens visuels et physiques, la dimension du sol, la troisième dimension qui est celle de la topographie et du modelé, c'est-à-dire la fabrication d'un socle, un socle fertile qui va accueillir aussi bien la végétation, qui va gérer la question des terres, de l'eau, de manière, je dirais, c'est quelque chose qu'on fait avec une forme de bon sens qui est très... très mise en avant aujourd'hui dans les questions environnementales, qui est l'économie des ressources, mais c'est presque quelque chose qu'on fait instinctivement pour fabriquer ce socle fertile qui va accueillir des usages et des gens, du vivant, qui va transformer effectivement ce qu'on a imaginé au départ. Et évidemment, la question de la dimension du végétal, qui est celle du monde vivant, qui va amener toute cette biodiversité s'installer et créer des paysages. Et là, bon, quelques images qui parlent d'un paysage en coulisses, peut-être issu de cette approche par la scénographie, qui fabrique un monde, qui compose un espace, un paysage en différents plans et dans les interstices, entre les entre-deux. C'est un enchaînement de séquences, de lieux et d'ambiances. Et dans l'entre-deux se passent des usages. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'essaye de mettre en place et qui va évoluer, évidemment, avec la question du vivant. Et puis, il y a aussi la dimension qui est pour moi très importante, c'est celle du paysage mental. Je ne sais pas si on appelle ça un paysage augmenté, en tout cas. C'est celui qui n'est pas propre au concepteur, mais surtout aussi à chacun de nous, quand on porte le regard sur un paysage, comment on fabrique son propre paysage à partir de son propre bagage culturel. Et en cela, c'est vrai que l'écologie aujourd'hui a amené en paysage une nouvelle esthétique dans la manière de faire de dessiner et penser le paysage. Mais je dirais que la dimension environnementale, si elle est très importante, elle ne suffit pas à faire paysage. Il y a une dimension culturelle qui est aussi, qui est effectivement d'aller chercher au-delà des limites, d'aller chercher ce qui a été là. Par la fabrication, on peut passer les images suivantes, qu'il soit un travail sur les. Bon, là, on voit le travail de la mise en place des limites dans un où on accueille à la fois le sol, les végétaux, les animaux et les hommes dans un zoo de Vincennes. Et ensuite, sur des plus loin, donc c'est un travail après sur cet imaginaire, d'aller chercher au-delà simplement de l'aménagement des éléments qui fabriquent, par exemple ici à la place Feydeau, on a réalisé, on peut passer l'image suivante aussi, où on est parti de l'idée de l'eau qui était présente, c'était un bras de Loire enfoui. Et donc tout le dessin du projet s'appuie sur ces images qu'on voit d'un tracé de l'eau qui a donné après. Et qui traduit une forme de fluidité de l'espace et par l'aménagement, que ce soit des fontaines et des espaces plantés comme un archipel d'îles qui vient ponctuer cet espace, qui vient chercher le façade à façade d'un grand espace nantais. Et ensuite, ou bien de créer, en partant d'un paysage de Loire, de réintroduire ce paysage de Loire dans des espaces beaucoup plus restreints en fabriquant ce paysage en coulisses, travaillant bien sûr sur la présence végétale. On voit bien que là, c'est un paysage déjà en place. On part du dessin, qui est l'image suivante, réintroduire ces principes-là dans un espace restreint qui va faire 50 à 70 mètres de large, dans une imbrication de la nature, dans les nouveaux quartiers des paysages de l'île de Nantes. Voilà, et c'est vrai que la nature fait qu'on pose en place les éléments qui n'est pas qu'un décor, un espace où on va vivre, qui accueille tous les usages, aussi bien de la mobilité que ceux des pratiques urbaines, mais aussi c'est un paysage qui va nous échapper, il va poursuivre sa vie. Et je terminerai sur cette image que j'aime beaucoup, qui parle d'ambiance, qui est une image du film Blow Up, qui est un espace comme ça où les choses sont possibles, l'appropriation est possible. Le paysage a mis le végétal à constituer un espace scénique dans lequel il se passe des choses, des histoires. Voilà, et après, j'aimerais terminer peut-être, clore sur la notion d'une phrase de Jean-Christophe Bailly quand il parle du dépaysement. Je vais lire simplement et je terminerai là-dessus, où il dit qu'il a choisi le titre de dépaysement parce que le sens premier était le plus simple et le plus immédiat, celui qui arrive lorsqu'on dit que l'on est dépaysé devant telle scène de genre ou tel paysage, soit parce que l'on se retrouve effectivement ailleurs, transporté très loin de ce qu'on connaît, soit au contraire parce que l'on connaît ou croyait connaître, qui s'est transporté de soi-même dans un ailleurs indiscernable, mais présent. Et donc, il a tenté de sonder à travers son livre les étranges et imprévues bifurcations qui survenaient toujours, emmener le pays au-delà de lui-même, le rendant en quelque sorte infini. Je pense, voilà, cette dimension, elle est, pour moi, c'est cette dimension intemporelle, c'est ce que j'aimerais retrouver dans les projets qui vont, au fond, m'échapper et avoir leur propre vie, et aussi interprétée et vécue par d'autres, par des personnes d'autres.
Référence à Blow Up, c'est très bien pour ceux qui ont vu le film. Je pense que tout le monde a vu le film. Effectivement, on est sur une scène de théâtre avec une polysémie d'interprétation tout le temps du film. Donc on comprend bien effectivement la dimension scénographique dans ce que vous faites. Alors Corinne, vous, c'est quelque chose de totalement différent. C'est une métamorphose particulière puisque vous avez inséré le fac-similé de la Grotte Kosker dans le bâtiment de Boëri à Marseille, qui est, vous savez, le bâtiment qui est juste en face, celui de Ricciotti, du Mucem. Alors la grotte Kosker, vous savez tous ce que c'est. C'est une grotte qui a été découverte il y a une vingtaine d'années, qui est en fait aujourd'hui immergée dans la Méditerranée, qui a moins 37 mètres, mais qui il y a 18 000 ans était au contraire en surplomb sur l'eau. Donc c'est une grotte qui est appelée à disparaître définitivement parce que l'eau monte. Et la ville de Marseille a décidé de faire un fac-similé, et c'est vous... Pas vous qui avez fait le fac-similé, mais c'est vous qui avez fait... Du coup, je suis allée à Marseille pour le visiter il y a 15 jours. C'est vous qui avez réussi le prodige quand même d'abord de métamorphoser un bâtiment qui n'avait pas trouvé d'usage et de bien le métamorphoser parce qu'on a finalement l'impression qu'il a été créé pour abriter le fac-similé. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand même, vous occupez du fac-similé d'un objet qui a 18 000 ans, 28 000 ans, qui va disparaître. Je pense que, je sais pas, ça doit vous inspirer des sentiments particuliers, pas forcément d'amour, mais ça doit être très impressionnant, donc très intimidant.
Oui, je vous avoue qu'au départ, lorsqu'on m'a proposé de travailler sur le sujet, j'avais refusé au départ, parce que me disant, mais qu'est-ce que je peux apporter dans ce bâtiment qui est très particulier. Donc, je ne sais pas si vous voyez quel est ce bâtiment avec ce porte-à-faux géant, dont d'ailleurs il est difficile de trouver un usage. Et effectivement, la région n'a jamais réussi à le faire fonctionner, ce bâtiment. Alors, juste en petit préambule, ça n'a rien à voir, mais je voudrais rebondir sur ce que Jacqueline a dit sur les questions environnementales ne font pas tout du paysage, et je pense que c'est vrai aussi pour l'architecture. Je pense qu'il en est de même, c'est pas ce qui fait architecture aussi. Et aussi un autre sujet dont vous avez parlé sur la métamorphose d'un bâtiment. Il se trouve que je suis architecte conseil de la ville et métropole de Lyon, et il vient d'être déposé là un projet sans un permis de construire sans affectation. Et ça, c'est un vrai débat. C'est pour eux, ils envisagent que l'avenir de la ville peut être sans affectation pour pouvoir se métamorphoser à l'infini. Est-ce que, mais je pense qu'on pourra en débattre, voilà. Est-ce que c'est ce qui fait aussi ville, et est-ce que c'est ce qui fait architecture, et est-ce qu'on n'en arrive pas à une certaine neutralité et aseptisation de la ville, puisque le bâtiment est assez très neutre, évidemment, pour pouvoir offrir tous les usages. Mais on délivre un permis de construire. Alors là, je ne sais pas, vous passez des images. Voilà, on voit le bâtiment. Alors, ce bâtiment, il a une particularité qui, à mon sens, peut... Oui, non, mais outre... Ça, je ne ferai pas de commentaires sur l'architecture, mais c'est surtout sur sa situation à la fois géographique et topographique. Il se trouve donc près du MUCEM, près d'un musée qui s'appelle Regard de Provence. Donc, il constitue finalement une espèce de pôle culturel pour la ville qui se crée en ce moment, qui s'organise. Et on sait très bien que les villes ont tendance à rassembler les équipements culturels sur des lieux uniques. Alors, je ne parlerai pas de l'île au musée de Berlin qui est l'extrême, mais à une époque, on disséminait les espaces culturels dans les villes et maintenant, on les rassemble. Et là, il constitue une des pierres de cet édifice-là. Il a une deuxième particularité, c'est que ce que vous voyez immergé, l'élément en saillie, n'est que le tiers du volume bâti qui se trouve sous l'eau. Et toutes les grandes salles principales, la grande salle, il y a un grand auditorium, se trouvent sous le niveau de l'eau. Et c'est finalement ce qui m'a convaincue. Parce que cette grotte, actuellement, se trouve sous le niveau de l'eau, donc vous l'avez dit, à moins 37 mètres. Évidemment, elle est donc inaccessible pour le grand public, puisqu'il faut plonger à moins 37 mètres et remonter une galerie qui, parfois, on passe à peine au niveau d'un homme. Il faut complètement enlever les bouteilles et les passer en avant. Enfin, c'est vraiment quelque chose avec des méandres dans les galeries qui remontent jusqu'au niveau de l'air. C'est ce qui a fait qu'il a sauvé cette grotte, c'est que c'était une poche d'air qui est restée emprisonnée dans la roche. Et lorsqu'ils l'ont découverte, évidemment, le niveau de l'eau était déjà beaucoup plus bas il y a 20 ans, et progressivement, le niveau monte. Donc, on sait qu'elle est vouée à disparition. Ce qui est très rare, c'est la seule grotte immergée qu'ils aient découverte pour l'instant. Et donc, il fallait la sauver. C'est aussi ce qui justifie le fac-similé, il me semble, et qui fait aussi qu'on ne le cache pas. C'est un fac-similé et les gens y viennent, sachant qu'ils viennent voir un fac-similé. C'est pas voilà. Alors la difficulté aussi, c'était de ne pas tomber dans Disneyland et de faire quelque chose qui soit strictement scientifiquement suivi au quart de millimètre. Toute la roche a été reconstituée strictement en image 3D. Et reconstitué à l'identique. Et ça a été l'élément très important. Et le gros challenge, il était là. Ne parlons pas des peintures où, effectivement, tout a été retraduit. Alors, Nous, pour nous, il était assez difficile. Vous voyez le bâtiment existant avec cet auditorium qui était important. Dans le concours, on nous proposait de supprimer l'auditorium. C'est un bâtiment qui n'a pas 10 ans. Qui a 10 ans. Et ce bâtiment, quand même, c'est un investissement public très important. Et il m'a semblé important de dire non, on va essayer de l'installer en conservant l'auditorium qui peut avoir aussi d'autres activités. On a peu d'auditoriums de cette taille-là à Marseille qui peut permettre de la musique de chambre, qui a une très belle qualité acoustique. Et le challenge pour moi, c'était de dire, eh bien, on fait avec aussi ce qui est important dans ce bâtiment. Alors, l'autre coupe montre qu'il y avait par contre des espaces vides extrêmement dispendieux, avec cette grande hélice, je ne sais pas si vous la voyez, cet escalier hélicoïdal qui existait, et un grand escalator qui monte toujours d'ailleurs à l'espace en porte-à-faux. Donc cette grande hélice, ça a été pour nous l'élément important qui nous a permis, qui traversait tous les niveaux et qui nous a permis, vous allez le voir, d'installer les parties en volume de la grotte, puisqu'il y a une grande cheminée dans la grotte qu'il faut positionner. Et c'est ce qui a été déterminant pour démarrer l'installation de la grotte en positionnant cette grande cheminée dans cette grande trémie qui nous était proposée ici. Il fallait faire sans que rien ne change à l'extérieur. Il fallait que tout change à l'intérieur sans que rien ne change à l'extérieur. Donc faire avec les portes d'accès, avec les issues de secours et ne pas perforer le bâtiment en d'autres points. La proposition qu'on a faite, c'est de faire, parce qu'il y a, ça débite, c'est impressionnant le nombre. Là, ça fait pas un an et on vient d'enregistrer 1 million de visiteurs. Donc, ce sont des visiteurs qui viennent à peu près, il y a 200 personnes toutes les 10 minutes. Et donc, il faut gérer les flux. Le gros sujet a été d'abord de gérer les flux et de faire descendre sous le niveau de l'eau, donc avec toutes les contraintes de sécurité, incendie et d'évacuation, sans que rien ne se voit dans une grotte, il n'y a pas d'issue de secours, et avec des poteaux qui se trouvent partout. Dans une grotte, il n'y a pas de poteaux. Donc ça a été vraiment, c'est pas un exercice vraiment d'architecture, mais c'est de comment s'adapter à un lieu et répondre à cet univers aussi du passage pour nous entre la ville, entre la modernité, le bruit, la lumière et ce monde de l'ombre de 30 000 ans, 27 000 ans avant. Et comment faire organiser ce passage entre ces deux univers et l'organiser dans une scénographie qui va permettre à l'œil de passer vers l'ombre et vers le silence. Et ça aussi était un travail important sur comment donner une impression d'humidité, une impression de fraîcheur et une impression de pénombre. Alors la première proposition a été de dire, pour l'accès, on ne va pas faire rentrer les bâtiments par l'intérieur, le public par l'intérieur du bâtiment à l'entrée principale qui était prévue à l'origine, qui est dans l'axe en haut de l'image, en haut à gauche du bâtiment, mais d'installer un petit cylindre, il en existait un déjà sur le bassin qui était une issue de secours, un petit cylindre de billetterie et un petit ponton flottant qui flotte sur ce petit bassin qui existe pour aller accéder à la porte de secours, l'issue de secours qui se trouve à l'extrémité du bâtiment. Vous le voyez en bas à gauche. Le bateau que vous voyez, c'est le bateau de Henri Cosquer avec lequel il a découvert la grotte, puisque lui, c'était un plongeur qui appartenait au club de Cassis et qui a découvert cette grotte avec deux autres plongeurs. Et ensuite, il y a le monte-charge qui existait pour les œuvres d'art qui se trouvaient dans la Villa Méditerranée, qui va permettre, vous voyez donc cette passerelle qui flotte sur l'eau, qui flotte, c'est un ponton flottant, et qui va mener jusqu'à l'entrée. Ensuite, on prend ce monte-charge, je sais pas, il n'y a pas de petit pointeur, je pense, mais le monte-charge se trouve ici, et ça va être le lieu où on va avoir le sentiment qu'on descend dans l'eau, donc il y a toute une espèce de mise en scène où on se retrouve dans l'eau et on voit les paliers qui descendent jusqu'au moins 37 mètres, et qui va permettre à organiser une circulation. Alors là, le choix de la circulation, ça a été un grand débat, et on a fait le choix, puisque la grotte est parfois dans l'eau, parfois sec, et on a fait le choix d'avoir des systèmes de on appelle ça des modules, qui sont téléguidés, et qui vont permettre de rythmer les visites, et de permettre de projeter le visiteur dans l'ombre et dans le silence sans être gêné par des attroupements devant des sujets. Donc chacun s'installe dans un module équipé de façon à conserver le silence et le module s'arrête à temps identique pour chacun, ce qui fait qu'on n'est jamais nombreux devant une œuvre. Et ça, c'était quelque chose d'important pour nous. Alors, vous voyez les poteaux. Et donc, ça, c'est le parcours là que vous voyez. Ensuite, la grotte elle-même, la grotte existante, évidemment, elle est beaucoup plus grande que le bâtiment. Et il a fallu travailler une espèce d'homothétie et de choisir. Et ça, ça a été un vrai débat avec les préhistoriens, les paléontologues. Et c'est là où le travail a été passionnant. Et c'est là où j'ai découvert un monde avec lequel je pense que je continuerai à travailler, parce que ce sont des personnes qui travaillent aussi des matières, qui savent utiliser donner le sentiment de l'eau, de la brillance. Vous avez dû le voir sur la roche. Et ils utilisent évidemment des pigments ou des matériaux que nous n'utilisons pas, nous, dans les bâtiments et qui pourraient être utilisés. Alors, vous voyez les surfaces avec des points importants qu'on a conservés, mais qu'on a positionnés en fonction des poteaux. Les poteaux ont été englobés dans la roche, évidemment, et on a des surfaces d'eau qui sont proposées avec là où se trouvent les peintures importantes. On a choisi évidemment tous ces espaces-là en fonction de ça. Voilà l'escalier qui existait, et c'est ici qu'on a installé, vous le voyez là où se trouvait cet hélicoïde, la fameuse cheminée qui n'a pas la hauteur aussi de la grotte. Et là aussi, sur un plan à la fois d'éclairage artificiel et de travail sur la peinture, donne l'illusion que c'est beaucoup plus haut que ça ne l'est. Et vous voyez ici la façon dont on a dû construire ce rocher. Alors moi, je parle pas, c'est vraiment bizarre de parler de ça, mais c'était quand même quelque chose d'assez surprenant pour nous. Donc avec une espèce de treillis soudé qui a commencé à créer les premières formes de la grotte. Et puis ensuite, sur ce treillis, et je ne sais pas si vous le voyez, il y a une espèce de petit treillis très fin, lui, en PVC, qui est accroché. Et là, il commence à projeter de manière un peu grossière, à projeter du béton. Vous le voyez ici, la projection. Vous voyez le petit treillis en plastique, là, la petite résille en bas, qui accroche. Et puis progressivement, ensuite, c'est allauché, et puis arrivent les artistes qui vont commencer à travailler les stalactites et les stalagmites, et puis les ocres qui commencent à arriver. Alors là aussi, avec des peintures, des pigments naturels. Ensuite, les brillances, comment avoir. Et elle est humide, cette grotte, donc il faut donner les effets de coulure, d'eau. La première main qu'il a découverte quand il est arrivé la première fois, parce qu'il est venu plusieurs fois. Et ça, ce sont les mains. Alors, justement, les mains, elle a le doigt coupé l'index. Et en fait, ils se sont rendus compte que très souvent, dans les grottes, il n'y avait pas l'index. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas l'index coupé. Mais c'est un signe qu'ils retrouvent à Altamira et dans d'autres grottes. Ce signe où la main n'est pas complète. Alors, il y a des mains qui sont comme ceci, qui sont au pochoir. Alors, on avait retrouvé et on l'a reconstitué aussi le carbone, enfin le truc, voilà. Bon, ben, et puis, il y en a d'autres qui sont à l'inverse, plongées dans la peinture. Et là, c'est ce qui est l'emblème de la grotte, les pingouins, parce que c'est la seule où se trouvent des petits pingouins. Et donc, ça voulait dire qu'en Méditerranée, à ce moment-là, il y avait un climat qui était différent. Et voilà.
Tout ce que vous avez dit est vrai. Si vous allez visiter le fac-similé, la gestion des flux est absolument extraordinaire. On est dans ces espèces de petits chariots, et donc on est cinq. Donc c'est incroyable, et la reconstitution de la grotte est incroyable. Bon, ça c'est à mon avis un très bel exemple de métamorphose, enfin de double métamorphose. Alors nous sommes déjà un tout petit peu en retard, c'est dommage parce que j'aurais aimé que vous parliez ensemble du Maroc, mais finalement la dernière question que je vais vous poser, Sarah, puisque c'est vous qui concluez, elle a un peu un lien avec ce que vous avez dit toutes les deux, c'est-à-dire vous pour le paysage, que la seule gestion écologique ou la seule création en partant de principes écologiques ne suffit pas à faire un paysage, et vous avez dit exactement la même chose pour l'architecture. Donc,
vous avez dit, je ne sais pas où, il est nécessaire que nous poursuivions le travail auprès des maîtres d'ouvrage, que nous travaillions notre notoriété auprès des professionnels maîtres d'œuvre, que nous reprenions le leadership auprès des bureaux d'études et des fabricants de matériel, ces derniers réalisant beaucoup de projets d'éclairage dont certains mériteraient un travail de conception lumière plutôt qu'une simple étude technique. Donc je vous donne une tribune pour défendre votre métier.
Merci, merci. j'ai 3 minutes. Non, mais de toute façon, on ne fait pas la même chose. Nous, les concepteurs lumière, on est en capacité de faire projet, de faire du projet, de travailler en amont avec les architectes, les paysagistes, à co-construire avec eux, à avancer avec eux. J'imagine que pour la grotte Cosquer, il y a eu... Il y a eu vraiment des échanges au moment de la fabrication du projet. Comme on travaille avec Jacqueline, on le sait, la découverte d'un site ensemble, les sensations, enfin, c'est des choses que n'offrent pas ni les bureaux d'études techniques qui prennent le sujet de la lumière, même s'ils peuvent le prendre très bien, mais que sur l'angle technique. Et fonctionnel, donc ils dérogent pas, ils répondent à la question de la lumière, des niveaux d'éclairement, des normes. Nous, on fait un autre travail, vraiment un autre travail. Et d'ailleurs, on va essayer même de plus en plus, en échangeant avec mes confrères, on a presque envie de désobéir aussi à ces règles, puisqu'on prend pas le risque, on fabrique pas des structures, donc il y a pas de choses dangereuses. S'il y a zéro luxe à un endroit, c'est pas un vrai trou noir qui va supprimer les gens, quoi. On a une marge de manœuvre pour déroger un petit peu. Donc on fait pas du tout le même travail et voilà. Il y a peut-être pas aussi beaucoup d'espace. Les projets, là je m'adresse aux architectes, urbanistes, paysagistes, designers qui sont dans la salle. Il y a de plus en plus, il est de plus en plus demandé des concepteurs lumière dans les projets. Mais les équipes sont de plus en plus pléthores. Et les honoraires restent les mêmes. Le prix jour reste le même depuis des années. Donc voilà. Donc comment on gère tout ça? Vous êtes mandataire, moi je ne le suis pas, mais c'est pas facile. Et donc voilà. Donc il y a des projets comme celui de la grotte Cosquer où il faut qu'il y ait un concepteur lumière, c'est évident. J'espère qu'il y avait assez de la mission était assez conséquente pour ça, mais voilà. Et en tout cas, je pense que les gens qui sont présents ici le savent que c'est pas la même qualité de travail qui se fait quand il y a un concepteur lumière et quand c'est un bureau d'études ou un fabricant qui se penche sur la question.
Très bien, merci beaucoup. Je pense que vous avez démontré très bien comment dans votre métier il n'y a pas de métier sans métamorphose, que ce soit ce que vous allez chercher dans le passé et qui vous nourrit, que ce soit ce que vous faites aujourd'hui et qui ouvre un avenir.
Un grand merci à Sarah Castagnier, Jacqueline Osti et Corinne Vezzoni, ainsi qu'à Michel Larue-Charlu qui a préparé et mené ce débat. Pour en savoir plus sur ces échanges et nos intervenantes, rendez-vous sur www.lesigno.org. Prochain épisode, Métamorphose par l'espace privé, avec l'entrepreneur Maurice Bancé et l'architecte Édouard François. À très vite.